On est en direct dans l'after, c'est parti pour l'after. Salut à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour votre émission foot de référence. On est ensemble jusqu'à minuit. On parlera évidemment de Mario Balotelli, ça sera dans un petit quart d'heure, on vous donne toutes les infos. Il sera en train de résilier avec le GC Nice pour pourquoi pas rejoindre l'Olympique de Marseille. On parlera aussi du mercato du Paris Saint-Germain, ça s'active en coulisses pour recruter le Hollandais Frenkie de Jong. Et puis l'AS Monaco est également actif sur le marché des transferts. Est-ce qu'un mercato réussi peut sauver l'AS Monaco de la relégation? On aura aussi des questions à vous poser, les questions de l'after, vous connaissez le principe. Les questions aujourd'hui, qui de Rennes, Saint-Etienne, Montpellier et Lille confirmera sur la deuxième partie de saison? Faites vos jeux. Et puis la lutte au maintien, est-ce que virer un entraîneur peut inverser la tendance? Vous savez que Dijon s'est séparé en début de semaine de son entraîneur Olivier Dalloglio. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio, et on lira vos messages à l'antenne. Dans l'after ce soir, à ma droite, Jonathan Macardy. Salut Jonathan.
Salut François, salut Ludo.
Et meilleurs vœux, puisque je ne t'ai pas croisé depuis.
Je te souhaite la bonne année aussi, en espérant que ça cache pas le prochain mercato Montigazon.
Ah ça y est, il est toujours en boucle sur ce mercato Montigazon.
Je suis rancunier, non, attends,
mais je vois ça,
je suis
rancunier.
Il met une valise en plus par derrière, non, mais c'est quoi ça?
C'est ça parce qu'il a perdu uniquement contre moi. Ouais. Ludovic Obraniak, il aime la Coupe de France, il l'a remportée deux fois, il est avec nous. Salut.
Bonsoir à tous, meilleurs vœux à vous, mes chers collègues, et à tous les afteriens.
Eh oui, vainqueur de la Coupe de France avec Bordeaux en 2013, avec Lille en 2011, buteur, je sais pas si t'as vu le but de Ludovic Obraniak, est-ce que t'as fait exprès contre le PSG? On te pose souvent la question.
Tu sais, Ludo,
tu vas pouvoir nous dire en vrai maintenant.
Il reste une part de mystère.
Je dois t'avouer que ce soir-là, j'étais particulièrement fan de toi.
Ah oui, parce que donc Lille s'est imposé contre le PSG, c'était en 2011.
J'ai pété le but comme
à cette époque-là, Marseille dominait Paris Saint-Germain, non?
Oui, mais même. Non, allez, après les auditeurs vont faire des scandales. Bon,
je vous invite à aller voir le but de Ludovic Obraniak et de vous faire une idée. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Il veut pas le dire.
Si tu l'as fait exprès.
Sur RMC. Il y a une part de chance.
Il y a une part de chance aussi.
Je vous laisse entrer. Il y a une erreur de coupet, on peut le dire, et puis ça va dans la lucarne.
Il y a une erreur d'appréciation au départ, mais après, une fois que le tir est parti, je pense pas qu'il pouvait rattraper le coup.
Bon, en tout cas, t'es bien placé pour nous parler de Coupe de France, 32e de finale, c'est parti donc ce soir avec la qualification de Nantes. Victoire 4-1 face à Châteauroux, club de Ligue 2, grâce à Koulibaly, à Krine, à Lucas Evangelista et au jeune Imran Louza qui a marqué également. Alors Lucas Evangelista a raté un pénalty, Louza a marqué et c'est Lib Mbombé qui marque le 4e but pour Nantes. Louza, 19 ans.
Le but du petit Louza, là, c'est son premier but, je crois.
Ouais, premier but.
Il s'enroulait pied gauche, propre.
Première titularisation.
Très bien pour lui.
Voilà, les Nantais qui se qualifient donc pour les 16e de finale. Il y avait un autre match qui était programmé ce soir. On va y revenir, c'est Grenoble qui recevait Strasbourg. Finalement, le match a été reporté en raison du gel qui s'est installé sur la pelouse. Reporté à la toute dernière minute. En tout cas, l'annonce a été faite par le speaker, au moment où les joueurs devaient entrer sur le terrain. Bon, c'est normal de reporter un match quand il y a du gel sur le terrain.
C'était impraticable, la pelouse, de manière, c'était compliqué.
Ce qui est un peu surprenant, c'est justement de le décider au dernier moment.
C'est le folklore de la Coupe de France, on va dire.
Ouais.
Ouais, pas cool pour les supporters, les gens qui se sont sûrement déplacés.
Je pense qu'il y a beaucoup de Strasbourgeois qui ont été jusqu'à Grenoble.
Il y avait une petite dizaine de supporters, on les a vus dans les
tribunes. Des conditions climatiques, mais il me semble que le rugby joue demain, non?
Oui, exactement. Il y a Grenoble casse demain en top 14.
Mais ils sont peut-être un peu plus bourrins, ils ont peut-être moins besoin d'une belle pelouse, quoi. C'est des marcassins, on le sait.
Donc on verra comment ça joue. D'ailleurs, c'est Grenoble Castres demain en top 14. Je te laisse
les propos avec nos chers collègues rugbyman.
On revient sur la victoire de Nantes, donc 4-1 face à Châteauroux, qualification pour le club de Vaïdalilozic qui avait fait tourner son effectif. On y revient dans un instant, mais d'abord on va prendre Xavier au 32-16. Salut Xavier.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Xavier.
Merci beaucoup d'être dans l'after sur RMC, supporter nantais, heureux de la victoire, on l'imagine. Large victoire, assez tranquille pour Nantes.
Oui, tranquille, faut le dire vite. Bon, on a vu une équipe de Châteauroux, je vais pas dire faible, mais qui ne vaut pas une équipe de Ligue 1. Donc moi je pense que quitte a vu en pleine face qu'il n'avait pas un réservoir de joueurs pour la suite du championnat, parce que si vous alignez cette équipe en championnat, c'est le flirt avec la Ligue 2, hein, ça c'est clair. Donc, les satisfactions qu'on peut sortir de ce match, c'est qu'on a la confirmation que Palois est un taulier de l'équipe. Lusa a été très intéressant aussi, un petit jeune du centre de formation qui faisait son premier match ce soir. Koulibaly a été très intéressant aussi.
Ouais, sur le but, ouais. Notamment, il commence bien son match, hein. Son but, il est bien, quoi. Tu vois, avec sa vitesse, c'est pas mal.
Ouais, et puis même tout au long du match, il a joué en remise, il a fait des appels, il a été très intéressant. Maintenant, c'est tout ce que je ressors de ce match, hein, qu'on voyait un gars comme Evangelista qui a bien commencé mais qui a sombré au fur et à mesure de la rencontre, Limonde qui est un peu trop brouillon, une charnière centrale, je vais dire, mis à part Palois, pas très sereine, avec un Mazia qui, je pense, qu'on ne reverra plus de la saison, tellement il a été pathétique par certains moments. Et alors, on avait un système en 3-5-2 qui appelait à ce que les latéraux, à ce qu'on joue beaucoup sur les latéraux, alors qu'on n'a pas vu notre ami Traoré et Fabio. Ouais. Donc, c'est un match, je ne retiendrai que la qualification, même si s'il y en a qui peuvent penser que Nantes a déroulé ce soir. Moi,
Non, t'as pas déroulé. Et puis, cette organisation à 3 derrière, là, en 3-4-3, 3-5-2, ça dépendait un peu des moments. Mais quand même, la défense, t'as pas montré non plus des grands signes de solidité.
C'est ce que je vous disais.
C'était même inquiétant.
Si notre ami Valdemarquita, comme je l'ai dit dans une précédente émission, venait à vendre certains éléments comme Diego Carlos ou Lucas Lima... Eh ben, il a vu en pleine face ce qu'il avait en réserve.
Exactement.
Et je lui souhaite bon courage. Voilà.
Ok, bah Xavier, tu as quand même noté des choses positives. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans l'after.
Le petit Lusa, c'est positif.
Il y a quand même du positif. Est-ce qu'on peut justement ressortir vraiment des choses d'un match de Coupe de France, d'un 32e de finale, quand on revient après la trêve?
Le petit Lusa, c'est pas mal ce qu'il a fait de l'intégrer comme ça. Koulibaly a été bon. Limbombé, qu'ils ont payé assez cher. Je crois que c'est leur recrue la plus chère.
Ouais, près de 10 millions d'euros.
Ouais, voilà, qui marque, c'est bien aussi. Après, vraiment, voilà, on a vu que derrière, c'était un peu limite.
Ouais. Donc bon, on va juste retenir le positif sur la qualification de Nantes.
C'est un match justement, tu as pu économiser tes cadres contre une équipe quand même
très inférieure.
Potentiellement juste une division en dessous. On connaît le charme de la Coupe de France qui fait que parfois le niveau s'équilibre. Donc tu joues à domicile, tu passes 4-1 à Châteauroux, tout en préservant tes cadres et en sortant quelques jeunes. Et en essayant de relancer quelques joueurs que tu avais pris pour le mercato et qui avaient commencé le début de saison comme Koulibaly, je trouve que finalement Nantes s'en sort pas si mal ce soir. Faut pas tirer de conclusion hâtive. Après, bien sûr, les gens anticipent les futurs départs qui ne sont pas encore justifiés, puisque pour l'instant ce ne sont que des rumeurs.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en regardant la défense nantaise ce soir, tu te dis que si l'arrière gauche, qui est quand même un très bon arrière gauche, et vu la difficulté de trouver des latéraux de qualité, c'est sûr qu'il va falloir se poser la tête.
Tu sais combien Marseille a proposé?
10 millions.
C'est quand même beaucoup, hein. Ouais. Si je suis Valdemarquita, je l'accompagne à
l'aéroport. Pour Lucas Lima?
Ah, c'est énorme. C'est beaucoup.
Ouais.
C'est quand même une très belle somme d'argent pour un joueur qui est bon, mais qui est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus un niveau international, quoi.
Bon, en tout cas, le calendrier de Nantes va être surchargé pour ce mois de janvier, puisqu'ils ont deux matchs en retard en Ligue 1 à jouer contre Montpellier et contre Nîmes. Il y aura donc en plus une date qui se rajoute, puisqu'il y a le 16e de finale de Coupe de France. Vahid Halilhodžić, en tout cas, a réussi son pari en faisant tourner, et Nantes et s'est qualifié. Juste très rapidement, un mot du programme à suivre de ces 32e de finale, avec notamment Lyon, qui sera demain à Bourges, club de National 3, l'équivalent de la Division 6, ça sera à 20h50. 55 demain. Marseille ira à Geoffroy Guichard pour défier Andrézieux, club de National 2, dimanche à 14h15. Monaco ira affrontera Canet. Et puis Toulouse-Nice, c'est la seule affiche entre clubs de Ligue 1. Ça sera dimanche également à 17h15. Avant donc le dernier match de ce week-end, PSG face à Pontivy, 20h45. Voilà, ça se jouera à Lorient, au Moustoir. Lille-Sochaux, dernier match lundi de ces 32e de finale. On revient dans un instant dans l'after avec l'OM. Est-ce que l'OM doit tout faire pour essayer de recruter Mario Balotelli? Parce qu'on a des infos à vous donner. Marseille reste intéressé, visiblement. On en parle dans un instant dans l'After. À tout de suite sur RMC.
C'est Football Show. L'After Foot, François Pinet.
C'est reparti pour l'After. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, toujours avec Jonathan McCarty et avec Ludovic Obraniak qui m'accompagne ce soir jusqu'à minuit. On va parler dans un instant du mercato du Paris Saint-Germain. On a quelques infos à vous donner sur le voyage d'Antero Henrique pour essayer de convaincre Frenkie de Jong et peut-être un autre joueur de rejoindre le PSG l'été prochain. Et puis on vous parle aussi de l'AS Monaco qui est pour l'instant le club le plus actif lors de ce mercato hivernal. Mais d'abord, on s'intéresse donc à Mario Balotelli. Des infos à vous donner sur l'attaquant de l'OGC Nice. Plus pour très longtemps visiblement parce que il devrait être bientôt libéré de son contrat. Les avocats du joueur ont en tout cas un contrat de résiliation entre les mains. L'attaquant italien qui, d'après nos informations, ne souhaite plus porter le maillot de l'OGC Nice. Et l'OM pourrait en profiter puisque les Marseillais ont relancé la piste. Il y a des discussions contractuelles qui sont évidemment conditionnées à la résiliation du contrat du joueur à Nice et aussi à des demandes salariales un peu moins importantes de Mario Balotelli par rapport à l'été dernier.
C'est quoi un peu moins
Un peu moins importantes.
Mais c'est quel ordre? Parce que c'est on est loin des 700 et des brouettes brutes par mois.
Alors, j'ai pas ces informations là sur effectivement est-ce que c'est, mais c'est juste que visiblement l'Olympique de Marseille demanderait à Mario Balotelli de faire un effort de ce point de vue-là.
Un très gros effort. Bah, alors
quand t'as mis zéro but dans la première partie de saison, oui.
C'est peut-être le meilleur moment pour le prendre. On va en parler. Ouais. En tout cas, selon une source proche du joueur, Balotelli intéresse des clubs italiens et aussi un club chinois, donc l'OM ne serait pas seul sur les rangs. L'OM qui aimerait accélérer aussi pour compter sur lui dès la reprise du championnat de Ligue 1 contre l'AS Monaco. On va écouter d'abord une réaction aujourd'hui, c'était en conférence de presse, c'est celle de l'entraîneur Rudy Garcia.
Ah bon,
on a l'impression que l'entraîneur de l'OM en a marre que l'on parle de Mario Balotelli à chaque longueur de conférence de presse. Écoutez.
Il y a aucun mot imprononçable, en tous les cas pas sur ce domaine-là, c'est ce que je vous ai dit, aucune nouveauté, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Vous doutez bien que moi il me faut rester concentré à 100% sur mon groupe, voilà, j'ai confiance en ce groupe-là, si on peut l'améliorer tant mieux, et puis sinon c'est le groupe que j'ai à ma disposition, j'ai aucun joueur qui viendrait de l'extérieur que je peux coucher sur la feuille de match dimanche.
Bon, il n'a pas démenti non plus. C'est vrai que ces derniers temps, on entendait Rudy Garcia dire « Non, je n'ai pas besoin d'un attaquant ». Quand il était venu d'ailleurs sur RMC Sport, oui, il avait dit ça aussi, qu'il n'avait pas besoin forcément de recrues au mercato puisqu'il avait déjà Thauvin qui marquait pour les autres. Est-ce que l'OM doit tout faire pour recruter Mario Balotelli cet hiver?
Ludo, vas-y, parce qu'après sinon je vais monopoliser la parole.
Ludovic Obraniak.
Tout faire, non. Au vu de la tension qui peut régner actuellement dans l'atmosphère,
dans le vestiaire de l'OM,
dans le vestiaire ou même par rapport aux supporters, ouais. On sent que les choses sont quand même se sont tendues depuis quelques semaines, que ça soit le rapport aux joueurs, à l'entraîneur, on demande du changement. Si aujourd'hui Mario Balotelli est la porte de sortie ou du moins l'apport espéré pour réussir une deuxième partie de saison, je trouve que c'est un poil suicidaire, en tout cas ça serait suicidaire de la part des dirigeants de miser essentiellement sur la venue de Mario Balotelli pour espérer accrocher une éventuelle place en Ligue des Champions. Maintenant, si Mario Balotelli vient en complément d'un autre attaquant, moi je dis pourquoi pas, s'il est libre, peut-être faire un coup au niveau, il n'est pas à son meilleur niveau, donc peut-être négocier, apparemment, soi-disant, il a des clubs chinois ou italiens, oui, qui seraient sur les rangs, j'en crois pas un mot, donc peut-être que Marseille est en position de force maintenant, il ne l'était pas peut-être au mercato d'été, pour peut-être faire un coup. Mais voilà, faire un coup, pourquoi pas, mais avec derrière l'assurance de prendre quelqu'un de plus stable qui peut t'amener peut-être plus haut que ce que Mario Balotelli. C'est trop énigmatique, ce joueur. Moi, ça serait suicidaire de la part des dirigeants de miser que sur Mario Balotelli pour mener l'attaque de l'OM en deuxième partie de saison.
Est-ce que c'est le vrai Mario Balotelli qu'on a vu lors des 6 premiers mois à Nice?
Après,
on peut aussi se dire qu'il a passé 2 années où il a marqué.
L'association de deux âmes en peine, des fois, ça peut donner des résultats. résultat surprenant.
Écoute, moi, au début, quand il y a eu les premières rumeurs avant l'été, j'étais pour parce que je pensais que ça serait un peu le feu qui rencontre le feu, que Balotelli c'est un joueur qui a besoin de sentir de la passion, de l'affection derrière lui, et je pensais que le Vélodrome derrière lui, ça donnerait quelque chose de formidable. Après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé cet été. Il a bien fait Cocu l'Olympique de Marseille. On se rappelle encore que lors de la présentation du nouvel équipementier de l'OM, qui est le nouvel équipementier de Mario Balotelli, tout le monde pensait qu'il allait arriver sur un bateau. Il y avait eu des vidéos avec un Black qui arrivait sur un bateau, machin. Tout le monde y croyait. Il est pas venu. Il a demandé beaucoup d'argent. L'Olympique de Marseille était prêt à en faire le salaire le plus élevé de l'histoire du club. Ça lui a pas suffi. Il est pas venu. Donc, basta. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est, je vais pas taper sur Rudy Garcia, mais je pense que si c'est vrai, si Marseille veut vraiment prendre Balotelli maintenant, qui est soi-disant prêt à faire un petit effort salarial, bah ça démontre l'incompétence chronique avérée et dramatique de Jacques-Henri Hérault qui ne sait pas gérer un club de football. Maintenant faut arrêter. Depuis que Jacques-Henri Hérault est arrivé avec Rudy Garcia sous son bras, ça a dépensé quand même pas mal d'argent hein, quand on regarde, je crois que c'est 200 millions d'euros qui ont été dépensés. Quand tu regardes la construction de l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est un effectif qui est capable de voir sur le moyen terme? Je ne pense pas. Et quand tu n'as pas des finances qui sont illimitées, il faut penser justement à une construction sur le moyen terme. Et quand on voit l'argent qui a été dépensé, que ce soit en transfert ou en salaire pour des Patrice Evra qui prenait quand même pas mal d'argent, pour des Strootman, et je vais pas faire la liste parce que sinon on s'en sort plus, même parce que je vous rappelle, avec Daniel, hier on faisait la liste des joueurs inutiles à Marseille, on en a compté 8, hein, Abdenour, Boutchan et compagnie qui ont quand même des très gros salaires. Je me dis que là, encore une fois, d'aller prendre Mario Balotelli qui, tu sais très bien, s'il vient, c'est très probable qu'il fasse 6 mois de feu, hein. C'est probable qu'il va 6 mois de feu, qu'il te plante une quinzaine de buts. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec lui sur le moyen terme? Tu vas subir encore ses caprices, il va vouloir retourner en Italie, vouloir viser plus haut, taper à sa porte avec son agent qui est un vrai emmerdeur pour une augmentation. Donc non, maintenant faut arrêter les bêtises et faut vraiment que les dirigeants de l'OM se remettent la tête à l'endroit et arrêtent de faire n'importe quoi parce que ça suffit.
Alors quelques messages sur l'appli Direct Studio. Salim nous dit Balotelli sera beaucoup mieux que Mitroglou et Germain.
Mais ça y a pas
plus
de doute
pour 0 euros, donc c'est une bonne affaire.
Mais attends François, 0 euros. Faut voir le salaire.
0 euros en transfert, bien sûr.
Oui, parce qu'il faut voir le salaire. Parce que si tu me dis un petit effort et qu'au lieu de prendre 700 par mois, 700 000 bruts par mois, il prenait à 550, c'est un effort, hein, c'est 150 000. Mais c'est quand même un salaire qui va bien plomber ta masse salariale.
Tu vois pas Balotelli arriver, ne pas être dans les plus gros salaires du club marseillais.
Ok. Et tu trouves pas que ça serait une erreur de donner dans les 500 000 euros à un joueur comme ça? Je pense qu'il faut arrêter. Et en plus, après, je me t'ai promis, on sait qu'en ce moment, il y a des grosses tensions dans le vestiaire de Marseille. À cause de quoi? À cause des salaires. Donc, qu'est-ce que tu vas prendre un mec qui a un agent qui est difficile et qui va demander à prendre autant? Non, là tu n'as plus dans le pied.
Puisque tu parles du vestiaire, on va écouter ce qu'en pense Bounassar, qui était lui aussi en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il pense d'une probable, une possible arrivée de Mario Balotelli à l'OM?
Bah écoutez, c'est vrai que moi si je joue sur la première partie de saison, sa première partie de saison, c'est vrai qu'il a eu quelques pépins physiques, il me semble. Il était pas au mieux, même statistiquement, donc je sais pas si en venant il nous apportera quelque chose. S'il vient, j'espère bien, mais s'il vient pas, faut compter sur les joueurs qu'on a déjà en place et faire en sorte que eux, justement, ils soient performants et qu'ils nous apportent quelque chose en plus sur la deuxième partie de saison.
Bon, il n'est pas emballé, hein, visiblement, par la possible arrivée, en tout cas les rumeurs d'arrivée de Mario Balotelli à l'OM.
Moi, je pense qu'il faut surtout penser à prendre un latéral gauche, hein, parce que là, Sakai, il va pas être là pendant 3 semaines. Il est avec le Japon. Là, t'as un gros trou. Visiblement, Garcia, il ignore qu'il a Christopher Rocchia, qui est quand même pas mal avec la réserve, mais bon, peu importe, il faut un latéral gauche. Et puis, si tu veux aller chercher un avant-centre, essaie de prendre un avant-centre qui va te faire, sur lequel tu peux construire un petit peu sur 2-3 saisons. Et je t'en donne des noms, hein, on en a donné des noms déjà.
L'attaquant d'Atlanta, là.
Martinez, Martinez. Il marque beaucoup de buts en MLS. C'est un joueur qui a un talent certain. Après, je pense que le prix, ça sera quand même un petit peu élevé.
Et 20 millions.
C'est ça, 20 millions. Et quand on voit que Lucas Prato ou Pipa Benedetto qui ont fait, ils les ont vus, en finale de Libertadores, ces deux attaquants qui sont quand même des attaquants sûrs. Je pense que tu peux quand même essayer d'aller miser là-dessus plutôt que d'aller te tirer une balle dans le pied et de prendre un Balotelli et surtout son agent qui vont venir taper à ta porte à la fin de la saison pour une augmentation.
De toute façon, tu te retrouves dans une situation.
Tu sais quoi? Il y a un joueur là qui est persona non grata dans son club. Cyril Théro. Moi je préfère Cyril Théro que Mario Balotelli.
Le français qui a joué beaucoup en Italie.
Qui marque sa 10-12 de buts chaque saison en Italie. Là, ça se passe pas bien à la FIO parce qu'à la FIO c'est un peu compliqué, mais c'est un attaquant qui est plus sûr.
Non, mais je suppose quand même qu'à l'OM, il doit y avoir une cellule de recrutement qui doit quand même travailler de manière correcte. J'imagine.
Pourquoi tu me dis ça?
Mais je sais pas.
Tu sais très bien que la cellule de recrutement, elle pourrait proposer 10 000 noms, que c'est ton ami qui a le fin mot, quoi, dans l'histoire, tu vois. Oui. Mais... dire, ah, c'est vrai, Moussa Sow a résilié son contrat en Turquie, oui! Mais on l'a, le futur avant-centre de l'OM.
Mais peut-être que justement ses erreurs passées vont lui faire prendre conscience qu'il est dans une situation où il ne peut plus se permettre ce genre d'erreur. Imaginons que non, peut-être pas Moussa, il a fait son chemin maintenant,
je pense.
Non, c'est pas une solution. Mais la solution pour l'OM, c'est surtout de limiter la casse, d'essayer de trouver, je sais pas, on est dans un mercato d'hiver, on peut pas imaginer une seconde que tu puisses trouver par rapport aux moyens qu'a l'Olympique de Marseille actuellement, de trouver des top joueurs ouais, c'est compliqué.
Mais à part des joueurs, comme tu disais.
Il faut que tu mises sur des prêts pour essayer de limiter la casse et d'essayer d'accrocher la Ligue des Champions. Et l'année prochaine, tu vendras sûrement Payet, tu vendras sûrement Thauvin. Et tu reconstruiras une équipe pour la saison prochaine.
Olivier Giroud. Il en a pas marre de cirer le banc, là?
Mais tu crois qu'Olivier Giroud, il a envie de venir à l'Olympique de Marseille, toi?
Au lieu de cirer le banc et de rien faire, d'être payé à rien faire, pourquoi pas venir dans un...
Visiblement, il avait déjà refusé.
Il a déjà refusé, je sais. Mais non, mais après, la solution qui est évidente, moi, j'adore Pipa Benedetto ou Prato, mais là, Michy Batshuayi a demandé à ce que son prêt à Valence que son prêt à Valence prenne fin. Voilà, fonce dessus. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Fonce dessus. C'est une évidence.
C'est peut-être trop cher aussi.
Mais c'est un prêt. Je le prends en prêt. Faut le payer, je crois, c'est 3 millions pour... Alors c'est vrai que 3 millions pour une demi-saison, c'est quand même beaucoup. En revanche, si Michy vient, tu sais qu'il connaît le club.
Est-ce qu'il a commencé la saison avec il est prêté par Chelsea,
il a joué qu'à Valence cette saison.
Oui, d'accord, OK.
Donc il peut jouer à l'OM. Ouais. Tu sais qu'il connaît le club, qu'il connaît le contexte, tu étais sûr que ça va. Allez, il y a 90% de chances pour que ça marche et les 3 millions de prêt que tu auras payé, tu te rattraperas avec ta qualif et éventuellement en Ligue des Champions. Je te
dis. 23h11 sur RMC, vous êtes dans l'after. On va prendre Jean tout de suite au 32-16, supporter de l'OM. Salut Jean.
Oui, bonsoir les amis. Et
merci beaucoup.
Bonne année.
Meilleurs vœux Jean, toi aussi.
Meilleurs vœux à toi aussi.
Que l'after soit aussi bon en 2019 que ce qu'il a été en 2018.
Ouais, voilà. C'est gentil.
T'inquiète pas.
Bravo, vous avez été extra.
Merci beaucoup.
Jonathan, je bois tes paroles. Tout ce que tu dis, c'est bouffonne de vérité. Pour moi, le problème Mario Balotelli, je me parlais avec le standardiste, c'est effectivement un pansement sur une jambe de bois.
Exactement.
C'est un écran de fumée. Je crois que les problèmes de l'OM, ils sont au-delà de l'attaquant. Je crois qu'aujourd'hui, j'avais fait un petit calcul, je m'étais amusé. Vous savez qu'on a changé 15 fois la défense depuis le début. 15 fois la défense. Je rigole pas. J'ai pris toutes les compositions de l'OM depuis le début.
On a joué combien de matchs déjà? 16, c'est ça?
D'accord. Je sais plus, on a joué combien de jours au journal championnat. Non, plus que ça, en comptant les matchs d'Europa League. On a changé 15 fois la défense avec des systèmes de jeu qui sont, on est passé avec 3 défenseurs, 4 défenseurs. On a une défense qui prend l'eau de toutes parts. Est-ce que vous pensez, moi, je vous pose la question, que Mario Balotelli va nous éviter de prendre au moins 2 buts? Ou des fautes à marquer? Je ne pense pas. Je pense que le problème à l'OM, il est bien plus profond que ça. Il est bien plus, il y a un problème, on n'a pas de fond de jeu depuis le début de la saison. Que Rudy Garcia a un problème depuis un mois, je veux bien, là ça fait 5 mois que la saison a commencé. Il y a un gros problème, il y a un problème plus grave que ça. Je crois que tout est à revoir. Dans des vidéos qui parlaient de vendre Thauvin, à la fin prochaine, ça me fait mal au ventre comme Thauvin, de nos meilleurs joueurs. Mais je comprends pas, à une époque, à l'OM, on arrivait à garder nos joueurs, je rêve un peu. Mais aujourd'hui, je pense que ce projet, il est en train de tomber à l'eau complètement. Je pense que les dirigeants, comme tu le disais, Jonathan, essayent de faire des écrans de fumée, un coup de baguette magique, ils vont nous sortir Balotelli du chapeau. Alors, comme tu dis, Balotelli, c'est un coup de poker, ça peut être
un moyen. Hein.
Mais ça peut très bien marcher. Mais je suis plus qu'on travaille un petit peu, alors je vais peut-être faire hurler des supporters de l'OM, mais à un moment donné, il faut sortir de sa carapace de supporter, essayer aussi d'ouvrir un peu ses yeux. Moi, j'aimerais qu'on parte un petit peu sur ce que fait Monsieur Aulas à Lyon. On sait quand même beaucoup, même on peut le critiquer, mais il construit, il est en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est cohérent son équipe, même si Genesio est beaucoup critiqué. Mais j'aimerais qu'on soit un petit peu dans ce dans ce clivage-là qu'on est en train de faire, ou même faire.
Tu sais, Jean-Michel Aulas et Lyon ont une véritable cellule sportive, c'est ce qui fait un petit peu la différence.
Mais évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire du clinquant, du pétant. On veut, alors bien évidemment, quand t'es que supporter du l'OM, tu as envie d'être en haut. Tu ne peux pas te dire l'OM, ça ne peut pas rentrer dans un clivage où on est tout le temps le dauphin du Paris Saint-Germain, parce qu'on veut lutter, nous, avec le Paris Saint-Germain. Forcément, on veut lutter. C'est dans notre ADN quand on est un vieux supporter. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se battre avec d'autres moyens et le faire intelligemment. Et là, on ne fait pas les choses dans le bon sens du terme. On a fait une saison l'année dernière exceptionnelle, où on a puisé sur nos joueurs, où c'était un groupe qui a marché sur le mental.
Sur les couilles.
On l'a dit plusieurs fois. On ne peut pas faire deux saisons qu'avec du mental. Et on le voit. Aujourd'hui, je sais pas, messieurs, mais ne me dites pas, vous vous rendez compte, le nombre de buts qu'on a pris, est-ce que vous trouvez ça normal?
Non.
Il y a un autre problème à régler que les problèmes. Tu parlais de latéraux, mais il faut des latéraux. Il faut peut-être remettre. Moi, je suis persuadé que Kaletachar, il n'est pas si pourri que ça. Je pense qu'il faut mettre en confiance.
On l'a vu l'an dernier. On a joué contre lui l'an dernier en Ligue Europa.
Bien sûr, on l'a cramé à Nîmes,
Exactement.
Voilà. Je pense que ce petit Radonjić, il faut lui laisser sa chance un peu plus souvent.
Alors, l'agent, écoute, autant Kaletachar, je veux bien, mais Radonjić, ouh là là.
Je pense que c'est moyen, hein. Je te fais confiance. Je l'ai vu faire quelques accélérations.
Il est rapide.
On est sur un débat de fond qui pourrait nous prendre des heures et des heures. Bien sûr qu'il y a de quoi discuter. Là, en l'occurrence, le sujet, c'est de savoir est-ce que Balotelli, c'est une bonne idée ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean?
Non, pour moi, c'est pas une bonne idée. C'est juste, comme je l'ai dit au standard, comme m'a dit le standardiste, c'est un pincement sur une jambe de bois, c'est tout ce que c'est. Voilà. Je pense que le problème est plus profond que ça.
Le problème, Jean, c'est que tu vois, ce qui me fait de la peine aussi du côté de l'Olympique de Marseille, c'est quand tu entames ton Champions Project, la tête d'affiche de ton recrutement, c'est Florian Germain en tant que Valère Germain en tant que numéro 9.
On l'embrasse.
Tu tergiverses pendant pas mal de temps. Finalement, tu réussis à faire Costas dans les arnières. En fait, à l'OM, ça a toujours été que des choix par défaut pour ton numéro 9 et ça risque de l'être encore une fois. Ouais. Alors que l'OM, ça devrait être un club qui attire, qui est attractif pour des joueurs.
Et dire qu'à un moment, il y avait Baffé.
Je pense surtout à des joueurs du championnat italien. Il y a quand même pas mal de petits attaquants qui appartiennent à la Juve ou quoi, que tu pourrais récupérer en prêt ou pourquoi pas acheter.
J'essaye Moïse Kean.
On fait pas les bons choix et c'est un poste stratégique du côté de ce club et ça fait depuis le début du projet qu'on se trompe.
Tu sais quoi, Jean, tu m'as presque convaincu d'une chose, c'est que je pense qu'un défenseur central à la rigueur est presque aussi nécessaire qu'un numéro 9.
À l'arrière gauche, le défenseur central.
Ce que je trouve très triste, c'est que t'en as quand même acheté des défenseurs centraux. T'as acheté Abdennour.
Ouais.
T'as acheté Rami. T'as acheté Tchaletatsar que t'as payé quand même une vingtaine de millions d'euros. Et t'as toujours pas de taulier dans cette défense.
Il y a Rolando qui est de retour,
mais le meilleur défenseur central pour l'instant, c'est Bouba Camara que Rudy Garcia est en train de cramer en faisant jouer à latéral gauche, latéral droit et compagnie. Donc ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, au passage, Rudy Garcia, c'est le seul illuminé qui a eu un jour le culot de dire que Bouba Camara, c'est un numéro 6, alors que tous les gens qui suivent la réserve de Marseille ont toujours vu, et l'équipe de France, les catégories jeunes de l'équipe de France ont vu que c'était un très bon défenseur central. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la défense, Jean, ton constat est juste, il y a très peu d'assurance. Tchaletatsar va falloir du temps pour qu'il se remette la tête à l'endroit. Et à la rigueur, tu sais quoi, plutôt que de prendre Balotelli, si on dit c'est Balotelli ou rien, je pense que je préférerais rien et voir Marseille jouer dans un schéma différent.
Donc tu gardes Germain et Mitro.
Non, je préférerais voir à la rigueur Marseille jouer dans un schéma différent qui résoudrait un petit peu tous les petits soucis que t'as. Tu joues à 3 derrière, tu remets Luis Gustavo en libéro avec deux stoppers et devant tu joues, je pense qu'il faut essayer. Ça a jamais vraiment été essayé, mais tu joues avec Ocampos et Thauvin.
Ocampos, il l'a fait.
À deux. Comme il joue à Rennes avec Kevin Nagy, tu joues avec Ocampos et Thauvin.
Aujourd'hui, pour les supporters de l'OM qui nous écoutent, si tu trouves pas un numéro 9 là sur le mercato d'hiver, ça va commencer,
ça va commencer à grogner quand même. C'est hyper important ce que tu dis, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que justement, j'ai l'impression que la gouvernance de Jacques Henriero a souvent été motivée par une sorte de démagogie un peu puérile, un peu voilà, vraiment pas constructive où on écoute ce que veulent les supporters. Non, faut pas. Là, il faut faire vraiment ce qui est dans l'intérêt du club le moyen terme.
On peut quand même partir du principe que les supporters marseillais sont aussi des connaisseurs de football. Quand ils voient que leur équipe, ils voient bien que, alors il y a Jean l'a noté les problèmes.
On le remercie d'ailleurs. Merci beaucoup d'être passé.
Les problèmes en défense, on les a tous soulignés, on les a tous vus. Mais le choix du numéro 9 est aussi pour calmer la populace, parce que là c'est ça commence à devenir une situation qui est très tendue.
Mais tu te rends compte qu'après 200 millions d'euros, t'en es à calmer la populace. Pétard,
bon, on va demander à un autre supporter justement de l'Olympique de Marseille dans la
heure
à 23h19 sur RMC. C'est François qui nous rejoint. Salut François.
Salut à tous.
Salut François. Salut François.
Alors sur le cas de Mario Balotelli, est-ce que toi tu es plutôt est-ce que tu as plutôt envie de le voir porter le maillot de l'Olympique de Marseille?
Ah ben le maillot de l'OM avec Balotelli écrit et le 9, je sais que ça fait fantasmer tous les supporters de l'OM, ça y a pas de problème. Moi aussi un petit peu. Évidemment, il peut nous faire quelques trucs. Maintenant, moi je suis un petit peu plus raisonnable peut-être que certains et je sais qu'à l'OM on a besoin de joueurs, d'attaquants de pointe qui défendent. Ce sera pas le cas de Balotelli, voilà, même quand il faudra sortir les doigts un petit peu et y aller, il sera pas tout le temps là pour le faire. Et puis j'ai aussi une autre crainte, c'est le mélange des caractères dans l'équipe. Balotelli, Payet, Thauvin, Luis Gustavo, Adil Rami, il y a peut-être 2-3 trucs, je sais pas.
En tout cas, il faut mieux
que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, ça va très mal fonctionner, à mon avis.
Il y a trop d'égo, selon toi, dans la star de l'Olympique de Marseille.
Je suis l'Olympique de Marseille depuis 1990. Je crois que là, ce sera l'une des équipes, je sais pas ce qu'elle va donner, mais où il y en aura quand même, l'une de celles où il y en aura eu le plus, à mon avis.
Tu soulèves un point qui...
J'ai dit l'une des tu soulèves un point qui est
forcément important. Moi, ce qui m'inquiète de tous les joueurs que t'as cités, c'est surtout la relation Dimitri Payet, Mario Balotelli. Moi, c'est surtout c'est surtout cette relation-là qui m'inquiète.
Il est plutôt bon Samaritain, Dimitri Payet, avec ses numéros.
Je le connais pas. Moi, j'ai joué avec lui. Attention, Dimitri. Il aime bien aussi avoir son confort. Il a été installé comme capitaine.
Parce que t'as vu comment il le bichonne, Mitroglou, là?
Non, mais Mitroglou, c'est le gentil nounours qui vient, qui dit rien, qui le remercie à chaque fois qu'il lui fait une passe. Tu vas voir Balotelli au bout de deux ballons ou qui va pas recevoir, tu vas voir comment ça va se passer.
Ouais,
donc moi, le problème, il est surtout à ce niveau-là, parce qu'Adil.
Tu t'es battu
jamais. Enfin, techniquement, on s'entendait très bien. Donc ça a toujours bien fonctionné entre nous, mais aujourd'hui, oui, c'est aussi la question du leadership. Il a été installé par Rudy Garcia comme le capitaine de cette équipe. Il est aujourd'hui dans une position un peu plus en difficulté qu'il le n'était l'année dernière. Si Balotelli, au bout de deux fois, ça commence à râler et tout, Dimitri, c'est aussi un homme de caractère. Attention, Adil, c'est le fanfaron qui va s'adapter avec tout le monde, il rigole, il arrive toujours à...
Je le vois bien copain avec Balotelli, je sais pas
pourquoi.
Oui,
mais Adil, il est copain avec tout le monde, il arrive à désamorcer les situations, il est bonnard, donc avec lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur le trio, sur le front de l'attaque, ça peut créer des inimitiés sur les prises d'initiative des autres.
Si ça fonctionne, on l'a vu avec le duo Thauvin Payet, ils s'entendaient comme la roue en foire l'an dernier parce qu'il y avait des résultats.
Aimé, François,
en tout cas,
j'imagine pas une seconde aujourd'hui si tu choisis un numéro 9 à Marseille, il faut quand même avoir les épaules pour encaisser ce qui va arriver, c'est-à-dire que si au bout de deux matchs t'as pas marqué un but, attention, ça va commencer à déjà grogner.
Comment il s'appelle notre éditeur?
François. Il y a quand même pour moi la différence entre avoir du caractère et être caractériel.
Ouais.
Et Balotelli flirte souvent avec cette frontière-là, sachant que attention, ça peut être l'amour fou avec les supporters marseillais parce qu'on sait
passion.
Qu'ils aiment ce genre, mais ça peut être aussi. Ça peut partir complètement
en cacahuète.
Ça peut avoir l'effet inverse.
Parce que il y a une chose qui est vraie, c'est que alors c'est vrai cet été j'étais très enthousiaste à l'idée de voir Balotelli revenir à Marseille, mais ce que François a dit est très juste. Pas toi, hein, notre auditeur.
Oui, mais
il dit des choses très justes.
Ce soir.
Mais si. Mais attends, on a passé l'été ensemble. Je l'aime bien, François. Non, mais ce qui est très juste, c'est que quand tu regardes les numéros 9 sur les 10 dernières années qui ont conquis le cœur du public. c'est quand même des mecs qui avaient cette grinta, tu vois, qui faisaient quand même beaucoup d'efforts. Pendant même André-Pierre Gignac, qui a eu des moments très difficiles à Marseille, même quand il était un peu il se battait et on lui accordait ça. Même Brandao a été aimé par le public de Marseille. Là, je sais que ça fait rire les gens qui sont pas supporters de là, mais Brandao était aimé.
Ça fait pas rire tout le monde, hein, Brandao. Brandao, il faut savoir lui rendre ce qu'il a fait. Ce mec-là, il se battait et il avait des stats aussi, quoi qu'on puisse en dire. À l'époque, on en sentait
la quinzaine par saison, non? Il mettait sa quinzaine par saison, hein.
Ah, mais c'est ça. Et on parlait beaucoup d'Oaro et de Chamac. Et moi, à l'époque, je me souviens que j'étais fou. Je regardais les stats, en fait, du mec. Et je disais, mais voilà. Il a vraiment un petit peu le délit de sale gueule du mec un peu, gentil, qui va un peu trop fort, un peu avec les coups.
Techniquement,
mais Brandao, c'était pas que ça. Et on a gagné des titres avec l'air de rien. Et c'est pas arrivé souvent depuis 90.
Au-delà de la grinta. Alors, la grinta, je sais pas comment que tu la caractérises. Il y a aussi la force de caractère. Pour être attaquant de l'OM, Gignac, tu te souviens de la première année?
Gignac, Romanès, ça allait, c'était la deuxième, surtout.
Tu te souviens comment il a subi, et les maldos, et les
machins, c'est la deuxième.
Il a eu la force de caractère de revenir et d'inverser.
Non, mais rappelle-toi que Deschamps l'avait envoyé en Angleterre et qui, pour l'échanger contre un Maori. Ouais. Tu te rends compte?
Bon, merci François, en tout cas, qui est passé sur RMC. Merci beaucoup.
Salut,
dans l'after. À très bientôt dans l'after, François.
Et tout ça pour dire qu'il y avait Bafé Gomis quand, à un certain moment.
Et oui, et Bafé Gomis n'est plus, à l'Olympique de Marseille.
C'est vrai que quand tu regardes un peu ce que tu voudrais proposer à Balotelli en termes de salaire, c'est vrai que Bafé, il aurait pu faire l'affaire.
Ouais, tu voulais pas lui donner 380,
messieurs, on revient dans l'after dans un instant sur RMC, à la radio sur RMC Sport News, à la télé, oui, si vous voulez nous voir. Puisqu'on parle dans un instant, on continue de parler du mercato, on parlera du Paris Saint-Germain qui fait des affaires peut-être pour juin prochain. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer cet hiver? On en parle dans un instant sur RMC. A tout de suite.
RMC Football Show, l'afterfoot, François Pinet.
Allez, on est de retour dans l'after jusqu'à minuit avec Jonathan McCarthy, toujours là, et Ludovic Obraniak. Dans quelques minutes, on vous posera les questions de l'after. On parlera du maintien et puis peut-être d'un des clubs surprises de cette fin de saison. Est-ce que Montpellier, Lille, Rennes ou encore Saint-Etienne peuvent continuer à surprendre pour cette deuxième partie de saison? Mais d'abord, le mercato. On a beaucoup parlé de Mario Balotelli. C'est vrai que ça fait encore discuter sur les réseaux, par exemple sur l'appli Direct Studio, sur l'appli RMC. C'est Cédric qui nous dit: Balotelli, ça sera dans tous les cas un gros coup marketing, je pense.
Ouais, pour Puma, voilà. Ouais.
Et puis Beto qui nous dit: je préfère encore Salah, donc le Nantais, que Balotelli. Ça me donne l'occasion de vous dire, si vous nous rejoignez, que Nantes s'est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France en battant Châteauroux 4-1. Salah est resté sur le banc.
Ça colle plus avec l'esprit olympien que...
Après, pour 6 mois, franchement, pour 6 mois, je prends gratos, je prends Téréo, hein, ils sont prêts à le prêter 6 mois, la FIO.
À Paris aussi, hein.
Bah, c'est quand même un mec qui met 10-12 buts par saison en Serie A, quoi. Ouais. Et qui fait surtout marquer les autres. Il serait ultra complémentaire de Thauvin et Ocampos, par exemple.
Alors, on va parler maintenant du Paris Saint-Germain, parce que on a quelques infos à vous donner. Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, vous le savez, a effectué un aller-retour à Amsterdam hier pour tenter de boucler très rapidement le dossier Frenkie de Jong, donc le milieu de l'Ajax Amsterdam. L'idée, c'est pas de le faire venir pour ce mercato d'hiver, mais plutôt pour le mercato prochain, le mercato d'été, et se mettre surtout rapidement d'accord pour éviter qu'un autre club le pique, sachant qu'il est quand même dans le viseur de très grands clubs, Manchester City ou encore le Barça. D'après nos infos, le PSG a une petite avance sur ces clubs-là pour l'instant. Le PSG qui pourrait être tenté également de faire venir son compère Matthijs de Ligt, le défenseur central de 19 ans. Ils s'entendent bien tous les deux. Ils ont envie de visiblement continuer leur progression ensemble.
Ils jouent parfois ensemble en défense centrale d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. Donc ça serait quand même très très cher. Ça serait de l'ordre de 150 millions d'euros pour les deux joueurs, pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que ne pas recruter cet hiver pour se concentrer sur ces deux joueurs, ou sur au moins un des deux cet été, c'est une bonne idée pour le PSG? C'est-à-dire qu'on repart avec le même effectif, sans Rabiot, qui a priori ne jouera plus jusqu'à la fin
de saison. Si tu poses la question, c'est que c'est soit tu fais les deux pour l'été prochain et tu prends rien cet hiver, ou tu as quand même la possibilité de faire les deux et de quand même faire un petit 6
cet hiver. Si je pose la question, c'est-à-dire que au vu du fair play financier, sommes qui vont être dépensées, il est possible que le PSG ne prenne personne cet hiver, justement pour se concentrer sur ce recrutement-là d'été.
Bah, je pense quand même que Paris a besoin d'un numéro 6 dans notre milieu de terrain. Si Adrien Rabiot est vraiment mis tricard jusqu'à la fin de la saison, ce que je trouve un peu bête parce que je compte le payer, il faut absolument recruter. Il y a des noms qui circulent qui font pas l'unanimité chez les Parisiens, mais que je trouve intéressant, notamment Doucouré, joueur extraordinaire qui est totalement sous-coté et qui a largement sa place dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Peut-être pas pour être titulaire, mais pour en de nombreux services.
C'est pas un 6 d'ailleurs, Doucouré.
C'est pas un 6, mais peut jouer 6-8-10. Il peut jouer 6-8-10. Il est tellement complet, il a une telle densité physique et une telle justesse technique, il peut jouer 6-8-10. Après, très franchement, la manière dont le Paris Saint-Germain travaille, là, c'est hyper intelligent, quoi. Tu vas cet hiver, t'essaies de boucler ça maintenant pour t'assurer de l'avenue de deux cracks, parce qu'il faut le dire, hein, on a tendance à s'enflammer, mais là, c'est, allez, je vais être vulgaire, mais c'est deux putains de cracks. Les deux, hein, même De Ligt, hein, il est un petit peu moins médiatisé que De Jong, mais c'est vraiment deux super joueurs. Faut absolument le faire. C'est extraordinaire. Et en plus, les qualités intrinsèques de ces deux joueurs, ça va bien avec Paris. C'est des joueurs qui sont élégants, qui sont classe, qui sont propres. Ça colle bien avec la ville et avec le club.
Oui, alors là, tu reviens sur un thème précis, des joueurs élégants, mais peut-être que Paris a besoin de joueurs qui se battent, qui comme Matuidi justement, le PSG l'a laissé partir peut-être parce qu'il était pas assez élégant à leur goût.
De Ligt là ou De Ligt.
De Ligt, ouais, il met le pied.
Hein. Au-delà d'être élégant.
Oui, c'est.
Il met le pied. Hein, on voit du bois aussi. Hein,
ouais. Non, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Jonathan. C'est une erreur souvent qu'on reproche au PSG.
Il faudra bien les encadrer. Mais tant mieux. Mais il faudra bien les encadrer. Après, il faudra voir qui tu fais partir, qui tu restes, comment t'équilibres ton équipe. Mais de les prendre, faut y aller les yeux fermés. Je trouve ça super ce qu'ils font là.
Dans la course à. Aujourd'hui, à la chasse
course à l'armement,
aux jeunes talents, puisqu'aujourd'hui, tous les clubs s'arrachent ces joueurs qui ont 18, 19, 20 ans, puisqu'ils représentent l'avenir économique aussi d'un club. Ouais. C'est-à-dire quand tu fais un investissement comme ça sur de tels joueurs, t'espères en obtenir le double, voire le triple. Donc au-delà de la qualité intrinsèque des joueurs, tu fais aussi un coût économique. Après, le PSG est obligé de se mettre sur le rang dès maintenant, parce que la concurrence va être rude et féroce pour ces deux joueurs-là, puisque en termes d'économie mondiale, tous les clubs, Chelsea, Barça, Tottenham, Milan, City, tout le monde se focalise sur ce type de joueur. Donc, s'ils arrivent à ferrer ces deux joueurs-là, je dis chapeau. Après, pour le mercato, ça va dépendre du fair play financier, mais je pense que tu peux partir avec
sans recruter,
avec ton 4-2, peut-être pas sans recruter, mais il faudra peut-être faire un choix intermédiaire, rester avec Marquinhos et Verratti en 4-2-3-1, pourquoi pas, ils l'ont
déjà fait. Mais s'il y a un suspendu,
déjà tu fait. Peux jouer avec
Verratti, on sait qu'il est sous la menace d'une suspension, il peut être suspendu pour le
avec Di Maria qui a déjà joué au milieu de terrain aussi, que ce soit avec l'Argentine ou avec le Real Madrid. Après, t'imagines si t'arrives à faire De Jong, t'as De Jong et Mbappé, outre la relation, comme tu l'as dit Ludo, la valeur économique que t'as avec ces deux joueurs-là, t'imagines la relation technique que pourra avoir les deux?
L'autre qui fait des transversales,
qui lance en profondeur, là, je vois déjà.
Transversales laser,
ça serait fabuleux.
De 50 mètres. Non, ça serait une relation particulièrement intéressante.
Bah, t'imagines De Jong, Mbappé. Eh putain, c'est quand même
23
heures. Après, il y a la situation 34. Économique du PSG qui rentre en ligne de compte.
Ah oui.
Ils pourront peut-être pas recruter du tout. Donc je pense que avec l'effectif actuel, tu peux quand même bricoler, même si on est tous au courant qu'il faut avec la situation d'Adrien Rabiot, il faut quelqu'un devant la défense, il faut une sentinelle.
C'est ce qu'a demandé Thomas Tuchel, il voulait même deux recrues, hein.
Un Verratti et un Marquinhos, c'est ça, il a dit.
Ouais. Thomas est au 32-16.
C'est un mec comme Alan, non, qui ferait bien l'affaire.
Ah bah oui.
Alan, c'est cher, hein.
C'est cher. Bah, tente de Young, c'est cher. Salut Thomas.
Salut.
Salut François, Jonathan et salut.
Salut.
Merci beaucoup d'être dans l'after, supporter du PSG. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, donc, de la perspective, là, d'après nos infos, le PSG songe très sérieusement et a même une petite longueur d'avance pour faire signer De Jong et peut-être dans le package De Ligt.
Ouais. Alors déjà De Jong, ce serait un très gros coup, une très belle opération. Mais alors les deux ensemble, je sais même pas si je peux trouver un qualificatif pour qualifier le coup que ça pourrait représenter. C'est quand même deux joueurs très jeunes, mais qui ont commencé à prouver l'un et l'autre qu'ils avaient déjà le niveau international. J'avais déjà regardé, je connaissais même pour être honnête De Ligt, moi, avant De Jong, parce qu'il m'avait vraiment impressionné avec les Pays-Bas, parce que j'avais recommencé à regarder quelques matchs des Pays-Bas parce que je les retrouvais intéressants depuis un certain temps. Et De Jong, je l'ai vu aussi contre la France et c'est très fort techniquement. Vous parliez de relations, mais De Jong, Verratti, quant à le ballon, je pense que ça peut être très 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 intéressant. Au niveau du jeu court, au niveau du jeu long, je pense que voilà, ça, ce serait vraiment deux valeurs ajoutées à l'équipe du PSG et ça préparerait aussi le futur du club quoi. Avec Jonathan, tu disais Mbappé, De Jong. Enfin, si t'arrives à cadrer ces mecs-là, les garder un peu de temps avec toi.
Avec Kimpembe et De Ligt, t'imagines?
Ouais, mais t'investis sur l'avenir du mieux possible là, avec ces gars-là. Et puis t'es vraiment sûr de ce qu'ils peuvent t'apporter. De Jong, c'est vraiment techniquement, contre la France, il avait été impressionnant. Donc c'est vraiment, ce serait vraiment un très gros coup. Maintenant, la somme qu'il va falloir débourser pour avoir les deux.
Je trouve que 150 millions pour les deux, ce qui est annoncé, c'est pas
cher. On parle de 75 millions d'euros par joueur.
Eh ben, c'est pas cher.
C'est pas ça cher. Aujourd'hui, c'est marché.
Non, mais c'est cher pour le PSG. Pour débourser 150 millions d'euros, alors que.
Bien imaginer qu'il va y avoir un renouvellement qui va s'effectuer à un moment ou à un autre.
Il va y avoir des joueurs, mais il va falloir vendre.
Bah oui, c'est ça.
Déjà, tu vas avoir
un renouvellement qui va y avoir à un moment ou un autre.
Il va y avoir des salaires qui vont partir. Des Lassana Diarra, des Ressé. Il va y avoir une masse salariale amoindrie. Mais c'est sûr qu'il va falloir réaliser une belle vente, je pense.
Il y a des joueurs qui sont un peu en fin d'histoire. Tu vois?
Di Maria.
Di Maria, on en parlait.
Ils viennent de le prolonger.
Ouais, mais justement, tu vois, c'est peut-être pour le vendre, tu vois.
Et pour le vendre, mais à qui?
Il y aura de la demande pour Di Maria, t'inquiète pas. Même, ça va peut-être se refaire.
À qui et à combien?
Ça va peut-être envers sur Sotisel certains, mais pour moi, Verratti, c'est peut-être la fin de l'histoire aussi.
Non, mais j'adore Draxler, il a jamais trouvé vraiment sa place au sein de cette équipe-là.
C'est remplaçant.
Donc, peut-être aussi, il a une très bonne cote en Allemagne, il y a quelques joueurs qui représentent une valeur marchande intéressante.
Il va y avoir un dossier chaud, c'est Cavani, de toute façon. De toute façon, Cavani, ça va être un dossier chaud à la fin de la saison, qu'on le veuille ou non.
Quelle tristesse de plus le voir s'il s'en va.
Merci beaucoup, Thomas.
Je suis d'accord avec toi. Je suis le premier à confirmer ça.
Ouais. Merci les gars. Thomas. Merci de passer dans l'after. Bonne soirée et encore bonne année. Merci beaucoup. Monaco, on a parlé un peu du PSG. Monaco, on va en parler quand même parce que la saison de Monaco passe-t-elle par ce mercato? En tout cas, pour l'instant, la SM a recruté Naldo, ancien joueur de Schalke, 36 ans, 1m98. C'est un monstre défensivement. Bonne recrue.
Écoute,
nécessaire.
Bon joueur. Après,
Monaco, c'est la 17e défense de Ligue 1.
Il marque, il joue. Malgré ça, quand tu regardes son âge, tu pourrais te dire qu'il
joue quand même. Cette titularisation cette saison.
Cette saison, mis à part cette saison, il a quand même fait des saisons relativement complètes.
Je connais un peu le personnage puisque on s'est déjà côtoyé quand je jouais en Bundesliga.
Ah, c'est vrai. Ah, vrai.
Et honnêtement, au vu du professionnalisme du bonhomme, et après, c'est pas le genre de joueur qui va sprinter, mais son intelligence de jeu compense totalement son manque de vitesse. C'est un élément sur lequel Thierry Henry va pouvoir s'appuyer, qui a de l'expérience du haut niveau, qui est un très bon joueur de tête, qui est un leader. Je pense que c'est une bonne recrue, en tout cas sur un mercato d'hiver.
Alors, l'autre recrue, pour l'instant, rien d'officiel, mais Monaco est en recherche d'un milieu de terrain d'expérience. On pense à Fabregas, et justement, Thierry Henry a été interrogé sur le milieu de terrain de Chelsea, aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez.
Fabregas est toujours un joueur de Chelsea, et voilà. Pas rentrer dans trop de détails, je respecte le club de Chelsea, et on verra ce qui peut avancer ou pas. Je pense que le profil intéresse tout le monde. On parle de Cesc Fabregas. Donc, priorité ou pas, c'est un joueur de Chelsea à l'heure actuelle. Mais si vous me demandez si Cesc Fabregas est un joueur important ou c'est un joueur avec un profil intéressant, mais je pense que je serais pas le seul à vous dire ça.
Bah forcément intéressé Thierry Henry, on avait de dire que c'est logique quand on pense à Cesc Fabregas.
Est-ce que Fabregas est intéressé pour venir à Monaco, c'est surtout ça la question.
Il joue plus avec Chelsea, enfin en tout cas il est remplaçant une seule fois titulaire cette saison.
Là, tu viens quand même dans une situation, t'es dans un bourbier quand même, pour un joueur qui est même remplaçant à Chelsea, un joueur du calibre de Fabregas, tu te poses la question. Après, il y a d'autres avantages qui sont sûrement lui, il est sur sa fin de carrière. il y a des avantages qui sont aussi financiers et qui peuvent être, enfin, on peut allier les deux, financiers et sportifs. Donc, pour moi, il y a que ça qui pourrait réussir à, parce que sur le plan que sportif, honnêtement, tu peux, il y a aucun intérêt à venir actuellement à l'AS Monaco.
Ouais, ouais, c'est vrai. Je t'en rejoins à 100%.
Alors un mot sur le Français de 19 ans qui devrait bientôt rejoindre le FC Barcelone. C'est Jean-Claire Todibo, défenseur central de Toulouse, qui est en fin de contrat en juin prochain. Il a l'embarras du choix puisqu'il y a les plus grands clubs qui étaient sur lui, la Juve, Manchester City. Selon nos infos, Todibo a choisi le Barça, où donc un contrat l'attend. Maintenant, il faut savoir comment ça va se passer, si le joueur va attendre donc la fin de son contrat pour signer à Barcelone. Et donc, il n'y aura pas d'indemnité à verser du côté du Barça,
ou alors une indemnité
cet hiver, si l'indemnité de formation à verser à Toulouse bien sûr, ou alors il signe cet hiver et les deux clubs peuvent trouver un arrangement, soit il signe et puis il est prêté la fin de saison à Toulouse. Enfin, il faudra voir comment ça se passe pour Jean-Claire Todibo. Voilà, là il n'a que 10 matchs de Ligue 1 dans les jambes.
Mais tu vois qu'il a quelque chose. Après, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de, enfin avec ces jeunes qui partent tôt. Dans des clubs étrangers.
Non, mais il faudrait une étape intermédiaire.
Exactement, ouais. Après, c'est ce que, s'il va peut-être au Barça, est-ce qu'il faudrait
le plus avantageux? Clément Lenglet, par exemple.
Exactement. Le plus avantageux, non, ça serait d'aller au Barça, de signer au Barça et d'être reprêté à Toulouse.
Il y a des clubs, saison tels que Séville, tels que Dortmund,
À Dortmund, je le vois d'ailleurs.
Tottenham, j'en passe, c'est des meilleurs.
Par exemple.
Qui sont des encore Tottenham, mais on peut parler de clubs intermédiaires, c'est déjà un.
Exemple, niveau, mais c'est vrai que là. Issa Diop. Issa Diop qui était très bon à Toulouse, qui là il est à West Ham et il y a pas de doute que d'ici une saison ou deux saisons il sera dans un club du Big Four ou du Big Six.
Alors ça veut pas dire qu'il sera pas prêté par le Barça, hein. Peut-être que c'est aussi un investissement sur l'avenir pour que fait le
Après,
Barça.
Après, avec en imaginant que Gérard Piqué arrive aussi à sa carrière arrivant à son terme, il peut y avoir une carte à jouer, je sais pas, mais c'est un pari qui me paraît quand même à son âge et vu son peu de nombre de matchs. Au niveau professionnel, un pari risqué dans sa perspective de progression. Je pense qu'une quand tu vois comment s'épanouissent des Zakari, Diallo et compagnie à Dortmund dans des clubs comme ça qui peuvent t'amener encore plus haut par la suite, je trouve que ça serait plus intéressant pour ce type de garçon.
Bon, en tout cas, Toulouse a recruté un défenseur, du coup, c'est Gen Joshi, le défenseur
japonais, hein,
international.
Quand le Barça passe,
oui, bien sûr.
Quand le train passe, t'as envie de le prendre en marche aussi. Donc
Gen Joshi, je disais, défenseur central international japonais qui a joué la Coupe du Monde, rejoint Toulouse, et il s'est engagé jusqu'en 2022, 26 ans. Et
moi, c'est j'ai des sushis au cassoulet.
Joueur japonais a joué pour le TFC, montant du transfert qui s'élèverait à 3 millions d'euros. On revient dans l'after. Pour rester avec nous jusqu'à minuit, toujours avec Jonathan McCarty et avec Ludovico Bragnac. On vous pose des questions de l'after et vous pouvez réagir au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. À tout de suite sur RMC et sur RMC Sport News à la télé.
RMC Football Show, l'after foot, François Pinet.
23h43, on est de retour sur RMC pour l'after, toujours avec Jonathan McCarty et Ludovico Bragnac. N'hésitez pas à réagir à l'émission 32-16, vous connaissez le numéro par cœur, et puis le hashtag RMC Live ou encore Direct Studio, on vous attend. Il y a par exemple un message pour toi sur l'appli RMC Direct Studio, IPBA 24 pour toi Jonathan, où on nous dit que Théréo à la Viola, il est au placard depuis 6 mois.
Ouais, je sais.
Et toi, tu voudrais le voir
je sais.
À Marseille.
Ça fonctionne pas du tout, c'est comme le petit Essérik, il fait partie des joueurs qui ont pas réussi à s'imposer depuis le début de la saison, mais quand tu regardes sur le passé à moyen terme, c'est un joueur qui était performant.
On peut quand même imaginer que là, dans la situation actuelle, t'as besoin de quelqu'un qui soit en forme assez rapidement.
Je suis d'accord.
On peut pas prendre quelqu'un vu la situation.
Mais c'est l'hiver, c'est compliqué.
Qui a besoin d'une période d'adaptation, qui a besoin de se remettre à niveau si t'as pas joué pendant six mois.
T'as entièrement raison. Dans un monde idéal, oui, mais après, t'es cet hiver, t'es Marseille, t'as pas de la Ligue des Champions comme pouvoir d'attractivité, t'as des moyens qui sont limités. Il faut faire des paris. Bon. Et je prendrais plus le pari Théro que le pari Balotelli.
Autre message sur le Paris Saint-Germain de J United 55 qui nous dit: je suis prêt à accepter qu'on ne recrute pas cet hiver, donc c'est un supporter du PSG, si on arrive à recruter les deux joueurs de l'Ajax, de Lyon et de Lyon.
Ça se comprend, hein.
Sans blague.
Ouais, mais bon, il y a quand même une saison à finir, hein.
Avec
Verratti, juste Draxler, juste Marquinhos au milieu de terrain.
Ça devrait
Di Maria.
Ouais, tu peux. Et puis, je sais pas. Moi, j'ai du mal à croire que Catherine Rabiot ne va plus jouer de toute la saison. Tu vois, regarde. Là, j'ai vu Ramsey a marqué.
On n'en a pas parlé d'Aaron Ramsey, qui visiblement serait proche de la Juve.
Et alors il est en fin de contrat.
Arsenal.
Il a refusé de signer. Ça a pas non plus été tout rose avec ses dirigeants et il joue toujours. Il s'en sert toujours. Je pense que Rabiot, tu dois le mettre. Si tu veux vraiment montrer que t'es sévère, etc., tu le mets en réserve. Et puis si t'as un pépin, t'hésites pas à aller t'en servir.
L'état d'esprit après d'Adrien Rabiot, ça va pas être simple.
Ben, je suis un peu naïf, mais je crois encore que le mec,
si vous nous regardez sur AMC Sport News, il est pas convaincu. Hein,
mais je crois encore que, tu vois, je suis un peu naïf, mais je crois encore que quelqu'un qui, voilà, c'est son club formateur et que il faut, je crois quand même qu'il aime quand même ce club-là.
Quelqu'un qui aurait eu de l'amour ou vraiment une affinité particulière pour ce club-là, aurait trouvé une solution pour reprolonger.
Pourquoi?
Là, en l'occurrence, parce que quand t'as la chance d'avoir été
formé. Mais Ludo, c'est pas tout blanc tout noir.
Non, c'est pas tout blanc tout noir, mais je pense que ce garçon avait tout pour, justement, quand t'as la chance d'être formé dans un club qui est dans le top 5 quasiment mondial, que le coach qui vient d'arriver te loue une confiance sans limite, en te mettant capitaine en début de saison, en te faisant passer des messages comme quoi il compte sur toi, et que tout est une question de salaire.
Et peut-être qu'il a envie d'aller voir ailleurs.
Ben, tu peux trouver un terrain d'entente, à mon avis, si t'as
Ludo,
vraiment envie de rester.
Moi, j'ai jamais été joueur de foot.
Tu as dit que le train du Barça ne se refusait pas tout à l'heure.
Non, j'ai dit que le train du Barça ne se refusait pas pour un jeune joueur qui joue à Toulouse.
Moi.
J'ai pas dit pour Adrien Rabiot qui aurait pu être qui devrait être un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain.
J'ai jamais eu la chance d'être joueur de foot professionnel, mais je pense que j'aurais fait comme lui et j'aurais essayé d'aller au bout de mon contrat et de prendre une énorme prime à la signature.
Ça arrive dans 90% des cas. Mais quand t'as la chance que ton club de formation est dans l'élite mondiale.
Et
regarde, t'as pas envie d'être un Gérard,
des mecs comme idéal, ça, bien
qui
sûr,
ont fait
Ludo.
Des totis, bien mecs sûr, qui ont fait des carrières dans
tu me parles à moi, mon cœur était brisé quand Mathieu Flamini s'est barré à Arsenal libre et sans même signer les deux premiers contrats pro à Marseille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, après, on sait qu'il a, je pense que ça pourrait même lui faire du bien de partir du Paris Saint-Germain. Tu vois, de changer un petit peu d'entourage, peut-être d'aller dans un club où on laissera sa mère moins se mêler de ses affaires.
Mais
je pense que ça peut lui faire du bien.
Mais il y a pas plus grande.
Je pense qu'il le sait au fond qu'il a besoin de partir.
J'ai été joueur. Il y a pas plus grande fierté pour un joueur que de réussir, notamment quand t'es dans un club comme le Paris Saint-Germain, de réussir
je te crois.
De réussir
mais
tu penses et pas qu'il a d'être un titulaire.
Pas de la même génération.
Tu penses pas que couper le cordon, ça lui ferait du bien?
Une génération.
Probablement. Mais de mon point de vue, si j'avais eu la chance d'être formé au Paris Saint-Germain et d'être dans ce club-là et de pouvoir continuer à progresser tout en étant titulaire, avoir la confiance de mes dirigeants, l'amour de mes supporters, mais tu veux demander quoi de plus?
Il a une histoire personnelle compliquée.
Je
trouve que c'est dommageable. J'aurais préféré qu'il reste au Paris Saint-Germain.
Moi, j'aurais aimé qu'il reste au Paris Saint-Germain.
Je pense que c'est pas cette histoire. On sait pas tout et c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Et je pense pas que c'est soit le Paris Saint-Germain et Angélique et Adrien Rabiot un sale gosse.
Mais je pense, j'ai jamais dit ça.
Ah non.
Je pense que le Paris Saint-Germain a raté le coche à un moment ou un autre aussi.
J'ai jamais dit que t'avais dit ça, Ludo.
Si moi j'avais été à sa place à laquelle je ne suis pas, mais en tout cas moi ça m'aurait le truc qui m'aurait fait vraiment bander.
Allez,
c'est de réussir dans mon club formateur.
Allez, il nous reste 10 minutes dans la sœur. On continuera. Vrai que tu as quitté Metz.
Voilà.
Merci Jonathan.
Voilà.
C'est vrai que tu as quitté Metz.
Qui ne jouait pas les premiers rôles. Qui ne jouait pas les premiers rôles en Ligue des Champions à l'époque quand même.
Oui, d'accord.
Mais vous auriez pu
être le Totti du Football Club de Metz.
J'aurais adoré.
Le Totti Grenat.
J'aurais adoré.
Le Totti Grenat.
J'aurais adoré.
Plein de fois, il m'a dit que c'était une sale ville, qu'il aimait pas les gens là-bas.
C'est pas possible. En plus, c'est pas une sale ville.
Non, c'est juste.
T'as jamais vu les
pieds
à Metz, ça pour dire ça.
Si, en plus, si.
Bon, le débat n'est pas là. On va parler de la Ligue 1 maintenant.
La France.
Avec les questions de l'after. D'abord, cette question avant la reprise. Qui de Lille, Montpellier, Saint-Etienne ou de Rennes va confirmer en cette deuxième partie de saison? Faites vos jeux, vous pouvez évidemment réagir sur le hashtag LMC Live. Pour l'instant, donc je vous le dis, Lille est deuxième du classement, Montpellier est quatrième, c'est un classement un peu chamboulé parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des matchs en retard, Saint-Etienne est cinquième à 2 points du podium et Rennes est huitième, mais la dynamique est positive avec 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée de Julien Stéphan sur le banc. Lille, Montpellier, Saint-Etienne et Rennes, pour finir pourquoi pas sur le podium.
Écoute, moi j'aime bien Rennes depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Alors je dis pas qu'il a mis un coup de baguette magique, mais que les matchs dans le contenu que tu vois et quand tu c'est très positif. Ils ont un effectif qui est quand même assez intéressant. Ils ont de la qualité en nombre. sur tous les postes. Donc Rennes, je les vois bien continuer leur belle remontée au classement et jouer les quatre premières places. Et puis Saint-Étienne, écoute, ils sont là, mais je sens qu'il y a une forte marge de progression. On les a fait beaucoup de fois le vendredi, je sens qu'ils ont une belle marge de progression. Je pense que si Gasset arrive à enfin stabiliser une formule devant, alors en installant, moi je milite pour qu'il installe Berich définitivement au poste de numéro 9, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très beau à faire avec Saint-Etienne pour jouer à la Ligue des Champions cette saison.
Je crois que Berich, il est en fin de contrat et donc il va peut-être quitter le club dès le...
C'est ce que j'ai entendu dire, c'est vrai. Mais je pense que vu ce que t'as et vu les matchs qu'ils ont gagnés où ils ont fait match nul et où le contenu n'était pas non plus, tu sens qu'ils en avaient encore sous la semelle, c'est quand même une équipe qui est intéressante. Et ils ont eu quand même aussi beaucoup de blessés en première partie de saison.
Alors moi je pense que à ma gauche, là, Ludovic va dire, Lille. Forcément, le cœur va parler.
Je vais dire Lille, même si la dynamique est inverse à celle de Rennes.
Est-ce qu'on va attendre la fin du mois de janvier avant de dire Lille ?
Non, mais la trêve est tombée à point nommé pour le LOSC. Ils ont pu peut-être recharger les batteries. Peut-être que le mercato permettra de peut-être.
C'est l'inverse, Ludo, le mercato de Lille.
Alors le mercato de Lille,
vendre.
Voilà,
non, je pense pas.
Le problème c'est qu'à l'instant ils
vendront peut-être Thiago Mendes.
Eh ben c'est déjà ennuyeux.
Oui, mais je pense qu'avec ce que tu peux récupérer, l'argent que tu peux récupérer, il y a l'intelligence. Si, je pense qu'ils le réinvestiront.
Peut-être pas
à hauteur. Peut-être pas à hauteur de ce que tu récupéreras, mais je pense qu'il y a moyen de récupérer quand même un joueur de qualité, tout en gardant la marge qu'il te faut pour compenser justement ce qu'il faut à la DNCG, ou du moins
pour l'instant ils sont en attente de la décision de la DNCG, et Christophe Galtier, donc l'entraîneur, a dit aujourd'hui qu'ils attendent une décision le 6 janvier pour ouvrir le mercato. Il dit c'est une situation agaçante, je défends mon président et mon institution. En tant qu'entraîneur, je trouve que ce traitement n'est pas égal. On est le seul club qui prend du retard car on attend une décision. Tous les clubs peuvent travailler et nous on attend. Donc ça peut quand même être un problème.
Moi je pense que tous les clubs qu'on a cités sont des candidats potentiels aux 5 premières places. Montpellier qui est dans une dynamique peut-être les plus réguliers. Rennes, ça dépendra des artistes on voit avec le retour en grâce d'Atem Ben Arfa. Le coach, ça a l'air de bien fonctionner avec l'arrivée du nouveau coach. Il y a quand même du côté de Rennes un secteur offensif qui est particulièrement fourni et talentueux. Si t'arrives à faire revenir en fort, sachant que Mbaye Niang et Atem Ben Arfa, qu'on a vu surtout sur les 3-4 dernières semaines, si eux tu les amènes avec le reste du groupe sur la deuxième partie de saison, Rennes, ça peut faire mal.
23h53 dans l'after.
Moi Lille, oui, j'en fais.
On va parler avec un autre supporter lillois, Eric, qui est avec nous au 32-16. Salut Eric.
Oui, bonsoir à tous.
Salut.
Merci beaucoup d'être dans l'after pour répondre à cette question. Donc toi, tu es supporter lillois. Est-ce que tu penses que Lille va continuer à surprendre en cette deuxième partie de saison? Pourquoi pas conserver une place sur le podium?
Alors moi, je pense que ça va être un peu difficile pour Lille. Pour plusieurs raisons, parce que déjà on n'est pas sur une bonne dynamique du tout. Ça fait 10 matchs qu'on nous attend, ça fait 10 matchs qu'on donne pas grand chose. On a perdu contre Toulouse, on gagne à Nîmes, heureusement, parce qu'on prend un carton rouge. Donc fatalement on a pu un peu jouer le contre, mais sur des équipes qui vont nous attendre un peu. Je trouve que Galtier, qui a su bâtir un jeu où on va planter des banderilles en contre, sur un jeu de domination, Lille, ça donne pas grand chose. On a des joueurs qui sont pas si forts que ça. Par exemple, je pense à Ikoné et Bamba, qui, dans ce rôle-là, où il faut trouver des espaces en domination, sont globalement même assez faibles. Pour revenir sur Thiago Mendes, si on vend Thiago Mendes, c'est une catastrophe.
Parce qu'il est super fort.
Il empêche les mecs de relancer en face. Il a une relance, il est extrêmement fort. Et sincèrement, si on le vend là à ce mercato, je pense que ce sera très mauvais, enfin très mal perçu pour les supporters, par les supporters de cette direction qui a peut-être quelque chose en effet à jouer cette saison, parce que vous voyez, on a un débat, on ne sait pas qui va finir sur le podium. Bon, je pense que Lyon est bien armé, mais derrière, on peut jouer un coup d'Europe et tout. S'ils le vendent, ça veut dire que ça ne les intéresse pas, et que ce qui les intéresse, c'est de prendre du cash grâce à un club de foot. Et nous, on ira manger notre frite au stade, on ira regarder ça, et toutes les saisons, on attendra qu'une seule chose, c'est que l'on se remonte pour leur foutre deux branlées par saison, et c'est tout, et on n'aura plus rien à jouer, aucune ambition, rien. Tant qu'on bat Marseille chez nous, comme là cette année, on les a éclatés 3-0, merci, mais voilà. Et je trouve que voilà, pour continuer sur les autres clubs, parce que je suis lancé, on ne doit pas m'arrêter. Tu vois, Montpellier, ils n'ont pas une très bonne dynamique non plus, mais eux, ils n'ont pas eu de problème à adapter leur jeu, je trouve, sur tout ça. Saint-Etienne, tant qu'ils auront Loïc Diony, ils feront rien. Parce que ce mec-là, moi, je l'ai même pris à mon petit gazon, je regrette.
Ah, oh.
C'est un nul.
Ah, il a marqué quand même quelques buts, là, cette saison.
Deux. Il en a mis deux. Attends, tu rigoles. C'est un nul. non. Mais Saint-Etienne, c'est très, très bon parce que Kadri, il fait la saison de sa vie. Et il faut voilà, c'est très très bien.
C'est leur milieu de terrain surtout.
Bah ouais, c'est ça.
Bon, NAS Mbila.
Et Diony, pour mon petit gazon, il a mis 5 buts, hein. Bon.
C'est vrai. Je l'ai revendu entre-temps.
Bon bah voilà, dommage. Merci Eric d'être passé dans l'after.
Salut Eric.
À très bientôt évidemment.
À
très
bientôt. Bisous à Ludovic, comme d'habitude.
Allez, je t'embrasse aussi.
Et t'embrasse pas Jonathan.
Pas les gars.
Non mais Lille peut tenir la corde, je pense bien sûr. Oui, je pense honnêtement. Le début de championnat sera déterminant. Ils se déplacent à Caen et reçoivent Amiens.
Ouais.
C'est le moment de réinverser la dynamique. Je pense qu'ils en ont parfaitement le potentiel. Quand tu vois le trio d'attaque qui a pu recharger, à mon avis, les batteries,
Bamba,
on s'est beaucoup reposé sur eux. Mais la qualité de cet effectif, quand tu vois quand même Fonte, Soumaoro qui va revenir aussi de blessure, plus le petit jeune derrière qui peut suppléer, t'as deux latéraux qui sont très bons. Quand tu sais l'importance aujourd'hui des latéraux dans le football moderne et la difficulté, et en plus t'as Jérémy Pied qui est arrivé qui peut éventuellement suppléer côté droit s'il y a il peut éventuellement aussi dépanner au milieu de terrain. C'est vrai que l'absence de Thiago Mendes serait préjudiciable, mais tout se tient quand même sur le niveau de performance des trois de devant.
Ouais.
C'est quand même eux qui ont fait les grosses différences.
Il y a Sheka aussi qui est important autour de
Dijon. Bien sûr.
Ouais. Bien sûr.
Non, mais ils ont un 11 assez compétitif.
Après, ce qui est intéressant, c'est que t'as Thiago Maia, t'as Rojo, et t'as quand même Loïc Rémy qui a quand même participé plus qu'on aurait pu l'espérer.
Ça sera chaud pour la troisième place de toute manière.
Okay. Ça sera chaud, mais ils seront dans la cour.
On aura l'occasion d'en reparler, notamment dans l'after, bien sûr. On se retrouve d'ailleurs demain pour l'after.
Parce que c'est
avec
projet.
Toi, Jonathan. C'est pas avec
demain.
Toi. Ah bah non, c'est avec Ali.
C'est
désolé. Bah bon
si
week-end, Jonathan.
C'est ton projet.
Ludovic, tu seras là demain.
Non, c'est pas ça.
c'est notre.
Merci à tous. Merci de nous avoir suivis dans l'after sur RMC. On se retrouve donc.
C'est vrai qu'il y en a.
Demain.
Voilà.
Demain, 22h. Après les matchs, les 32
heures
de finale de Coupe de France,
projet.
À tout de suite dans l'after et à bientôt sur RMC surtout.
Allez, bonsoir à tous.
Salut.
RMC Football Show, l'after foot.